Octave Mirbeau, Le dernier voyage. Après avoir choisi un coin dans un compartiment encore solitaire, et quand j'ai déposé en signe de possession hargneuse ma valise et mon plat de voyage, je redescendis sur le quai et je flânais tout le long du train en attendant l'heure du départ. J'ai la tristesse invincible, l'incurable angoisse des départs. Même lorsque je vais vers des pays connus et que j'aime, conduit par la promesse d'un repos ou par la joie d'une rencontre souhaitée, j'éprouve toujours au cœur comme un froid. Rien ne me donne l'idée de la mort comme de partir. Les malles ouvertes comme des cercueils, la hâte que je vois dans les yeux des gens qui m'aident, le mystère que prend la sonnerie de la pendule, la majesté extraordinaire que revêtent les choses que je quitte, et tout ce par quoi je suis jeté si violemment hors de moi, m'impressionne et me prédispose aux sensations les plus lugubres. Alors, pour distraire cette manie tragique, j'essaye de m'intéresser à tous ces va-et-vient captivants et désordonnés qui font ressembler les gares à d'immenses maisons de fous, et je tâche de m'amuser aux multiples et comiques spectacles de cette humanité en casquette anglaise qui ne sait où elle va et qui, essoufflée, haletante, se précipite au guichet, au wagon, s'y engouffre, s'y empile, s'y bouscule, ainsi que des fuyards dans une armée vaincue qui doivent avoir trouvé une retraite sûre. Cela mène des scènes dont je m'efforce d'accentuer le sens caricatural pour ne pas voir ce qu'il y a au fond de terribles ennuis et de véritables efforts. Donc, je flânais lorsque je me heurtais à un groupe de 3 personnes qui stationnaient devant un compartiment de 3e classe. C'était d'abord une vieille dame d'une pâleur cireuse, tout en noir. Un châle de cachemire fané recouvrait son dos rond, que la toux, de temps en temps, secouait comme une chiffe. Un homme et une femme l'accompagnaient. L'homme d'allure vulgaire, la femme dure et sèche, dont les yeux semblaient garder le reflet blanchâtre des registres des livres de contes. Son masque, qui présentait une surface osseuse trop largement accusée, se plissait prématurément de riches couleurs de cendre au front et sous les zygomas saillants. « Oh, mes pauvres enfants !» gémit la vieille dame. « Me sens plus mal. Me sens pas bien. »« Mais si, mais si !» consola l'homme. « Tout cela, c'est des lubies. Vous êtes très bien, vous êtes bien mieux. »« Certainement, » appuya la femme. « D'abord, faut toujours que tu te plaignes. »« Oh, j'aurais pas dû partir pour encore, » reprit la vieille dame, en poussant un soupir qu'un accès de toux interrompit brusquement. « Oh, mon Dieu, oh, je sens qu'il va m'arriver quelque chose. »« Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Pour un petit rhume, va-t-il pas ? Non, 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 j'aurais pas dû partir encore. » Mais je vous gênais, alors j'étais une charge pour vous. Mais non, il vous fallait la campagne, le bon air, intervint là, dit-elle. Tu n'étais pas prête. Certainement, fit l'homme. Nous n'avons que le temps. La vieille dame gémit. Une larme roula de ses paupières qui entouraient ses yeux d'un cercle rouge. Mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai dans la tête. Tout tourne dans ma tête. J'avais des lubies, belle maman, fit l'homme gaiement. C'est des lubies que vous avez dans la tête. Et la vieille dame gémit encore. Oh, seulement, si seulement j'avais pris un bouillon avant de partir. Eh bien, c'est ça, fit la femme. T'en prendras un à Versailles. Mon Dieu, il va m'arriver quelque chose. Si j'allais mourir en route, toute seule, si j'allais mourir là-bas, toute seule. Allons, allons, dis pas de bêtises, maman. Monte, adieu, adieu, ma fille. Le gendre hissa la vieille dans le wagon et déposa dans un coin comme un paquet. Adieu, belle maman. Adieu, adieu, mes enfants. Et quand la portière fut refermée, elle fondit en larmes. On appelait les voyageurs, je regagnai mon compartiment et m'installai le plus confortablement que je pus. Cette scène m'avait ému. Elle ajoutait une tristesse à toutes les tristesses ordinaires que me causent mes départs. Je ne voulus pas y penser davantage et je jetai un livre de ma main lisse dans l'espoir que je pourrais m'abstraire de moi-même et oublier cette douloureuse apparition. Mais je ne pus pas lire. Entre les lignes du livre et mes yeux, toujours s'évoquait la physionomie mourante de la vieille dame et le visage insensible de l'autre. Ce visage blafard me poursuivait. Je revoyais aussi sans cesse, lorsqu'ils étaient partis, leur dos de meurtrier. À Versailles, où nous avions un quart d'heure d'arrêt, je descendis et la pitié me mena devant le wagon de la vieille dame. Elle venait d'avoir une syncope. On s'empressait autour d'elle. Quelqu'un lui avait fait boire un peu de bouillon qu'on est allé chercher en toute hâte au buffet de la gare. Elle se ranima et dit « Merci, merci, maintenant, ça va mieux, ça va bien. » En effet, il me sembla que ses joues s'étaient coiffées d'un flux de sang et son regard avait quelque chose de moins fixe, de moins lointain. Je regagnai mon wagon. Après tout, elle n'était pas si malade que j'avais pensé. Une faiblesse, voilà tout. Maintenant, elle va s'endormir, et puis, les belles-mères, la nuit était venue. Je ne songeais plus à la vieille dame. Et sur ses coussins, je m'endormis tout de mon long, bercé par le rythme endormeur des wagons roulant à toute vitesse. Je ne me réveillais qu'à Rennes, où je descendis. Encore tout engourdi de sommeil, je suivais le facteur qui portait ma valise sans avoir conscience de ce qui se passait autour de moi. Je voyais des ombres fuir, des ombres se croiser, des êtres de rêve dans des paysages imprécis auxquels les vitrages mal éclairés de la gare donnaient des aspects de terre noyée dans une eau de ténèbres et de lumière funéraire. Et tout d'un coup, le facteur s'arrêta devant un rassemblement. Quelques personnes criaient en gesticulant « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un médecin, vite, un médecin !» clamait un voyageur. « Est-ce un accident ?» demandai-je au facteur. « Non, » répondit cet homme paisible. C'est une femme qui est morte dans le train, une vieille femme. Je parvins à m'approcher du compartiment autour duquel 30 curieux, en tas, tenaient leur tête, qu'animait le désir de voir la mort. Allons, faites de la place, faites de la place. Et je vis le cadavre que deux hommes d'équipe soutenait, l'un sous les ascelles, l'autre par les jambes, passé près de moi. Je reconnus le châle de cachemire fané de la vieille dame et son visage de cire pâle. Elle était déjà raide et toute froide. Est-ce une mort subite ou bien est-ce un crime? Se demandaient près de moi deux voyageurs. Oh, c'est un crime, proférais-je. Un meurtre, un vrai meurtre, je le sais. Et tandis qu'un frisson faisait claquer mes dents, j'ajoutais d'un ton qui sembla étonner gravement les spectateurs de cette scène. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive pour un petit rhume? Voilà-t-il pas